compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. Be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Un bon producteur, c'est quelqu'un de suffisamment prudent et de suffisamment prêt à prendre des risques. Dixit, un grand producteur de cinéma, Georges Dansigère. La ligne est fragile entre la prudence et la témérité. C'est la définition d'un métier. Alors question, à quoi ressemblent-ils ces nouveaux producteurs? Nous en avons choisi 4 spécimens ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Nous sommes partis d'une remarquable série documentaire éditée en DVD au Pacte, Le temps des nababs, comment produisait-on avant la télévision, de Florence Strauss et impulsée par Jean Labbadie. 8 épisodes consacrés à de grandes figures de ce métier. Avant, les temps ont bien changé depuis, avec les contraintes techniques, financières et plus récemment sanitaires. Bonjour Marie-Ange Luciani.
Bonjour.
Productrice des films de Pierre, qui a produit notamment entre autres les 120 battements par minute de Robin Campillo, la production comme un engagement dans la société. Sophie Le Tourneur, Sébastien Marnier, Marc Fitoussi entre autres font partie de votre catalogue. Bonjour Caroline Bonmarchand.
Bonjour.
À la tête de Avenue B Productions. Lui fait partie d'un collectif de producteurs chez Agathe Film et Ex Nihilo, aux côtés notamment de Robert Guédiguian. Bonjour Marc Bordure.
Bonjour.
Et enfin, à la tête des films du Bélier, créés en 2003, bienvenue Justin Torrent.
Bonjour.
Producteur entre autres de Réparer les vivants. Vous êtes 4 ce matin pour donner une couleur et des nuances à ce métier producteur de cinéma. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi entre une fille et un âne dans les Cévennes, ou la circulation du désir chez Emmanuel Mouret, c'est parti.
Un producteur, c'est d'abord un saltimbanque, un bohémien, pour employer les termes de jargon professionnel. Aujourd'hui, on dirait plutôt qu'un producteur, c'est un financier. C'est certainement un financier, un banquier. Mais un banquier sans argent, il doit comprendre les enjeux que le film pose avec des techniques qui sans cesse se renouvellent. Il doit comprendre le rôle de chacun dans l'équipe technique qu'il a engagée. Il doit être un diplomate puisqu'il est en relation avec des gens des sens très divers. Il doit faire montre d'une certaine sagacité sur les marchés étrangers. Il doit être un promoteur, un marchand, certes, et un artiste si possible. Un producteur, c'est quelqu'un qui doit mélanger les gens par des aptitudes très diverses et souvent contradictoires, d'où la difficulté d'être producteur.
Parole d'Anatole Doman, producteur entre autres des Hiroshima Mon Amour, Mouchette, L'Empire des Sens, Le Tambour, Paris, Texas, rien que ça. Une sacrée référence, des propos extraits de cette série, Le Temps des Nababs. Alors, saltimbanque, banquier sans argent, promoteur, marchand, diplomate, artiste, vous prenez tout,
oui,
tous les 4.
Ça a changé en fait.
Ouais, c'est, un peu, hein.
C'est vrai. C'est-à-dire, alors, il faut être tout cela à la fois, Marc Bordure?
On est entre l'art et l'argent, en fait. C'est un métier où on est vraiment entre l'art et l'argent. Il faut connaître, évidemment, bien l'aspect artistique, mais on développe un film, c'est un scénario, on fabrique un film, donc on est aussi des producteurs au sens on fabrique un film. À l'époque des nababs, justement, c'était des circuits courts, puisqu'il y avait un distributeur et un producteur, et il y avait 3 sources de financement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a une multitude de sources de financement. Il faut être aussi un peu plus financier, il me semble, que ce qu'ont pu être les producteurs avant la télévision, puisque c'était le...
C'est le titre de cette série. Marie-Ange Luciani, est-ce qu'on rêve d'être productrice petite?
Non,
Enfin, pas pour moi en tout cas, non. Et puis quand j'entends là la définition du producteur qui vient de nous être donnée,
c'est écrasant.
C'est comme ça quelque chose qui vient aussi de l'expérience et de la schizophrénie. Donc on est plein de choses à la fois. Donc je pense qu'on le devient en le pratiquant, en l'exerçant ce métier. Moi je l'ai rencontré tard, hein, juste j'étais très cinéphile et j'avais envie de faire du cinéma et j'ai découvert ce métier en le faisant auprès de gens que j'ai assistés, de producteurs que j'ai assistés et puis finalement le pratiquant, et je crois que j'ai pas fini de l'apprendre, hein. Je crois que la définition comme ça elle est ouverte et infinie, quoi, mais il y a quelque chose un peu monstrueux finalement chaque dans ce métier.
Chaque film étant un prototype, y compris en termes de réalisation, au scénario aussi absolument, bien sûr. Mais en termes de production, c'est un prototype.
Oui, chaque film est une aventure finalement.
Un moule unique.
Chaque film est une aventure, c'est pas très bien où on va arriver au final, mais voilà, on se lance dans l'aventure singulière qui est ce film et le réalisateur qu'on rencontre.
C'est ça, j'allais dire ça, Justin Torrent, c'est quand même pour rencontrer des gens assez atypiques que sont les réalisateurs. C'est ça, Silbermann qui disait « J'ai permis à Buñuel d'être plus tranquille et détendu ». Non mais c'est important, cet accompagnement.
Oui, bah
c'est... rassuré.
Ouais, C'est vrai que la partie financière dont on parlait au début, c'est l'endroit qui est le plus invariable et saisissable de la fonction. Mais à côté, c'est beaucoup plus hybride, c'est beaucoup plus changeant. Et évidemment, le rapport à l'auteur et l'accompagnement dans la révélation d'une vision, c'est un peu le cœur permanent de notre travail, j'ai l'impression. Et c'est là que ça se joue dans des formes très très différentes, hein, même d'un producteur à l'autre. Je pense que la fonction de producteur prend un sens très différent d'un producteur à l'autre, et elle prend un sens très différent aussi d'un réalisateur à l'autre. C'est-à-dire que on s'adapte d'une certaine façon, on s'adapte à la demande. Donc on essaie de répondre à un besoin, à une nécessité pour accoucher d'une vision, d'un projet, d'un film.
Ouais, voilà. Mais en tant que productrice, Caroline Marchand, est-ce que vous avez une ligne de conduite dans les films que vous sortez? Est-ce qu'il y a un point commun, une morale, je sais pas, vouloir parler de la société? Il y a ça en tête quand on produit ou pas?
Alors moi, j'ai pas l'impression d'avoir une ligne éditoriale très comme ça franche. Mais moi, je rapprocherais notre métier de celui d'éditeur. En fait, moi, j'ai d'abord aimé les livres et j'ai pensé à ce métier d'édition. Et puis en fait, je suis devenue très cinéphile comme Marie-Ange. Et voilà. Et du coup, je suis venue à ce métier de producteur et je trouve qu'il ressemble. Donc voilà, c'est comme un éditeur qui éditerait plusieurs romanciers, plusieurs livres. On s'adapte en effet à ça. Après, il y a une histoire de rencontres, comme on le disait, et d'accompagnement. Et il y a autant de manières de produire que de producteurs. Et surtout, on le fait en fonction de notre personnalité, qui est quand même au cœur de notre métier.
Je vous propose d'écouter Jean Renoir et sa vision de la production, parce que Jean Renoir a également été producteur de certains de ses films.
Bien souvent, on me dit « Ah, les producteurs, ce sont des gens ignobles, des gens dégoûtants, ils ne pensent qu'à l'argent, ils ne pensent qu'à faire des sous, ils ne pensent qu'à ce qui est commercial. » C'est pas vrai. Moi, je prétends que les producteurs sont les gens les plus désintéressés du monde. Ce sont des gens qui, sincèrement, aiment le cinéma. Ce que je leur reproche, c'est de vouloir faire des bons films. Ce qui, à mon avis, est complètement ridicule. Il ne s'agit pas de faire des bons films. Il s'agit d'amener un tout petit peu d'humanité. Il s'agit d'ouvrir une petite porte sur des côtés, sur ce que l'on croit avoir découvert de l'esprit humain ou d'une situation nous menant à des caractères. Il s'agit de la connaissance de l'homme.
Marc Bordure, la connaissance de l'homme. Je sais que chez Agathe et Ex Nihilo, vous avez quand même une espèce de philosophie de la production aussi, politique.
Oui, on a une philosophie parce que c'est un collectif de 9 producteurs, donc et productrices. Il y a 5 producteurs et 4 productrices. On n'est pas loin de la parité.
Bravo, c'est bien placé.
Mais le chiffre impair permet aussi d'être dans une majorité contrôlée.
Et tac.
Allez.
Donc oui, on
bref.
A une philosophie, mais ça va pas durer. On a une philosophie quand même qui est proche finalement des producteurs qui sont autour de la table. Nous, je pense qu'on fait tous des films de la diversité, ce qu'on appelle des films de la diversité, c'est-à-dire des films qui ont un sujet, donc ont une originalité dans le sujet et aussi une originalité sur la forme.
Alors, exemple.
Et où ?
Exemple.
Il y en a plein, je veux dire, mais tous les films que ces producteurs ont fait, tout ce qu'on a fait autour de la table, c'est des films qui répondaient pas à un besoin de l'industrie, à une demande de l'industrie.
C'est ce que Renoir dit.
Voilà,
pas forcément pour faire de l'argent,
absolument,
mais pour évoquer un sujet. Est-ce que vous produisez des films que vous aimeriez voir et qui n'existent pas, Marie-Lange Luciani? Est-ce que c'est un peu ça l'idée?
ce serait prétentieux de l'aborder ça, mais pourquoi pas, oui, en tout cas, encore une fois, je vais parler d'une rencontre. En fait, il y a quelque chose quand on a produit 120 battements par minute, par exemple, c'est vrai qu'il y avait un manque dans la représentation collective, un manque de ça, et qu'il y avait aussi une demande, c'est-à-dire on était à un moment, c'était en 2015 quand on a commencé à le préparer, et puis c'était un moment de les élections commençaient, enfin la préparation des futures présidentielles se mettait en place, et puis il y avait ces groupes là sur la place de la République, les Nuits Debout, voilà, et on voyait qu'il y avait quand même une volonté de dans la jeunesse de prendre la parole, de faire politique ensemble, et le film, l'idée du film est arrivée quasi en même temps que ça, en se disant comment on répond finalement à une société qui est en train de nous dire quelque chose. Est-ce que le cinéma a la force de ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'essaye toujours, et Robin Campillo et les auteurs souvent avec lesquels je travaille, d'être un peu un espèce de miroir de la société qui laisserait trace d'une époque qu'on traverse, quoi, qui laisserait la trace de quelque chose. Moi, oui, le film marche ou pas, c'est vrai qu'on en a tous envie de faire un succès, etc., mais l'idée de départ, c'est plutôt qu'est-ce qu'on raconte ensemble et qu'est-ce qu'on laisse ensemble.
Justin, voilà. Torrent, je reviens à Renoir par rapport à la volonté de faire de l'argent ou pas. Quand vous produisez quelqu'un comme Elie Cisterne avec Vandal, vous croyez en une personnalité, vous voulez être à l'origine d'un parcours.
Oui, alors je pense qu'on pense jamais à l'argent à ce moment-là. Au moment où il sort, on va l'espérer, mais on est Elie Cisterne, quand on produit Vandal, on se connaît déjà depuis très longtemps, on a déjà fait des courts-métrages ensemble.
Oui.
Donc ça s'inscrit en fait dans
une continuité.
Dans une continuité, dans la construction d'un parcours à deux. Enfin, il y a vraiment et je pense que c'est assez particulier en France, même par rapport aux États-Unis, c'est qu'il y a vraiment cette notion de couple un petit peu qui est tout à fait différente aux États-Unis, où les producteurs montent des projets, lancent une idée, un scénario, prennent un réalisateur, montent tout ça. Ce qui est pas trop la culture française, même si évidemment on peut faire ça, mais la culture, elle est plus de la construction à deux, souvent d'une œuvre, voilà.
Parfois d'ailleurs, des producteurs comme vous, pas vous en particulier, mais croient en quelqu'un qui ensuite se développe et qui va peut-être voir d'autres producteurs. On écoute à ce propos Pierre Brandberger.
Est-ce que vous savez que le cinéma coûte beaucoup d'argent et qu'il faut avoir cet argent et que je ne l'avais point? Et que dès qu'on a fait faire un court-métrage, dès que quelqu'un a eu un succès, ce quelqu'un, talentueux ou pas talentueux, a des exigences énormes, souvent valables, que je n'ai pas pu assumer, que je n'ai pas pu accepter, c'est tout, parce que je n'en ai pas les moyens. J'ai bien vécu, honorablement vécu, mais je n'ai jamais eu d'argent.
Oui, Karine Bonmarchand, je vous fais réagir sur ce propos, parce que parfois, on peut beaucoup aimer quelqu'un et il est trop cher pour vous.
J'ai pas d'exemple en tête, mais ce qui est vrai, c'est que, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec un garçon qui s'appelle Marc Fitoussi,
oui,
qui m'a fait des infidélités.
Vous parlez d'infidélité.
Non, je dis ça avec le sourire parce qu'on est en plus très proches et très amis, et c'est pas exactement ça, mais c'est vrai qu'on est sorti, par exemple, d'une expérience sur un film qui s'appelle Maman a tort, qu'on a vraiment initié ensemble, et qui a été un four total, on a été très malheureux en fait de cet échec, et c'est vrai que voilà, c'est pas l'unique raison pour laquelle il est allé faire un film Les Apparences avec une autre productrice, mais voilà, et là on est très content de se retrouver, on va faire un film l'année prochaine, et c'est vrai que voilà, c'est aussi parfois on a besoin de respirer d'accepter de se quitter pour se retrouver.
C'est propre de tous les couples.
Oui. Par exemple, Robin Campillo pourrait changer de produit. Non, mais voyez.
Non, mais bien
qu'est-ce
sûr que oui.
Enfin,
bien sûr, mais je l'accepterais évidemment. Enfin, on n'est pas propriétaire de nos réalisateurs, et en effet, enfin voilà, ça
mais c'est quand même frustrant. Ça va être frustrant de parier sur quelqu'un, de lui consacrer autant de temps, autant d'énergie, autant de passion.
Comme Pierre Brandberger peut le faire.
Je pense que ça doit être très dur. Je l'ai pas encore vécu, mais je pense que c'est une rupture amoureuse. Ouais. À ce moment-là, mais je pense que c'est une affaire de couple. C'est vrai que c'est faire un film, c'est épouser quelqu'un pendant 4 ans, hein, au moins,
plus,
minimum, voire plus.
aussi.
Alors, entrons concrètement dans le métier, justement. Ça consiste en quoi? Alors, vous êtes avec un réalisateur, Marc Bordure. Votre travail commence dès l'écriture, en tant que producteur.
Absolument. C'est même un travail qui est assez long, oui. Assez invisible aussi,
ouais.
Mais qui peut prendre, en fonction de l'auteur, du réalisateur, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois. Donc, évidemment, là, il y a des rythmes de travail qui sont propres aux auteurs. Et puis après, il faut trouver l'argent. Donc, on revient toujours à cette étape.
À partir d'une dernière version.
Voilà. Et là, on jette le projet, j'allais dire, aux financiers, aux chaînes de télé, à tous les interlocuteurs, et on attend. Et je pense que c'est un métier qui est très anxiogène parce que on a des rythmes. C'est arithmétique. Enfin, c'est au sens où on a un rythme de production qui a des grosses accélérations et des moments d'attente qui sont assez pénibles. Je pense qu'on a tous vécu ça, où on a une réponse négative tout d'un coup et on commence à se dire que tout ce travail qui a duré 4 ans, je vais devoir le jeter. Et puis il y a une réponse positive, on rebondit et voilà, on passe par des phases quand même où un peu dépressives presque.
D'où la ténacité, très dur. C'est vrai que... On a quand même un rapport très affectif au film et que les rejets, on les vit violemment. Donc il faut s'accrocher et puis essayer de convaincre.
Ou parfois avoir le courage de quitter un film quand il ne peut pas se produire. Ça, est-ce que ça se produit, ça, justement?
Ça m'est déjà arrivé, oui.
Ouais.
Ça m'est
déjà arrivé d'abandonner un projet.
D'abandonner d'un commun accord, de développer un projet, de ne pas arriver à le financer. Tout
d'avoir mis de l'énergie, de l'enthousiasme, d'avoir rencontré quelqu'un. Ouais. Et ça se fait pas.
Ça m'est arrivé une fois, oui, et alors qu'on a développé un film pendant 3 ans, ce film-là, je ne dirais pas. Mais c'était, oui, c'est difficile. C'est vrai mais c'est vrai qu'on a de vraies phases. Mais on est presque bipolaire d'une certaine façon, quoi. On a des phases d'enthousiasme extraordinaire et puis des phases de dépression, voilà.
Ce film perdu, c'est une blessure pour vous ou pas?
Non, on s'en remet. Il y a eu des blessures plus grandes de films qui s'en vont ailleurs, par exemple, alors qu'ils sont presque faits et des choses comme ça. Mais non, une blessure, je m'en suis remis. Enfin, on part sur le film d'après.
Jusqu'où on tient un film, Justin Durand? Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut aller très loin pour un film?
Jusqu'où on est prêt à aller?
Oui,
c'est votre question. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment extrêmement vital qui fait qu'on accepte d'être en permanence entre la vie et la mort et de jouer quelque chose d'aussi nécessaire. Enfin, je pense qu'on le vit comme ça, on l'éprouve comme ça, et parfois des choses s'effondrent, renaissent. Le premier film de Cadel Quilivéré, Un poison violent. Mmh. Je me souviens d'un été, un mois de juillet, où on devait tourner 2 mois plus tard. On attendait ces fameuses dernières réponses qui permettaient d'y aller. Et puis là, le distributeur qui semblait vouloir y aller dit finalement non. Et le lendemain, la chaîne de télé qui voulait y aller dit non, probablement parce qu'elle a su que le distributeur avait dit non. Oui. Et tout d'un coup, il n'y a plus de film, il n'y a plus de tournage.
C'est des dominos,
c'est l'effondrement.
C'est des dominos.
Et on a tourné 1 an plus tard. Mais il a fallu repartir. C'était un état de mort à ce moment-là. Quoi. Enfin,
C'est vrai que ce qui est dur, c'est surtout de voir dans les yeux de son réalisateur, tout d'un coup, tout qui s'écroule. C'est-à-dire tout ce qu'on a... Parce qu'il y a quand même une nécessité vitale. Enfin, c'est ça qu'on cherche, des réalisateurs qui portent des projets pour qui c'est une nécessité. Ils ont quelque chose à dire, Enfin, voilà. Et donc ça, quand on voit à un moment donné que peut-être ça ne va pas avoir lieu, c'est terrible, c'est impossible en fait.
Eastern Boys, c'était à peu près aussi la même histoire. Hein. Eastern Boys, on a mis 4 ans à le monter.
De Robin Campillo.
Et ça a été très très compliqué. Il y a eu des gros moments de doute. On a reporté le tournage d'1 an en se disant est-ce qu'on va pouvoir le faire ou non, parce qu'on n'arrivait pas à monter ce film. Voilà, il y avait Canal Plus et l'aventure recette, qui est une aide du CNC, et puis le reste, on n'avait pas de distributeur, on n'arrivait pas, et c'était dur, enfin, c'était...
Là, l'argent qui existe et celui qui n'existe pas, on écoute Jean Labbadie.
Claude Nejjar avait une expression qui était de dire, voilà, la production, c'est l'argent dans la glace. Et donc, l'argent dans la glace, c'est tu prends un billet de 100, quand il m'a raconté cette histoire, c'était dans un bistrot où il y avait une glace derrière lui. Donc, il prend un billet de 100, et avec le reflet, il me dit, voilà, il y a 200. Toi, tu mets les 100, et moi, je mets l'argent qui est dans la glace. Il dit, toute la production, c'est ça. C'est inventer cet argent qu'on voit dans la glace.
Et c'est drôle, mais l'argent dans la glace, alors, il vient d'où l'argent dans la glace, Marc Bordure?
Moi, je me demande si c'est pas Jean Labbadie qui était dans la glace. qui se parlait pas lui-même. Non mais ça avec beaucoup d'affection et d'amitié pour Jean, mais
toutes ces sources de financement, c'est ça l'argent dans la glace, c'est les intellectuels, les chaînes de télé, la région, les Sofica, les minimums garantis.
Les distributeurs.
C'est-à-dire, alors, expliquons ça deux secondes.
C'est complexe, il faut simplifier, oui. Parce que pour, ouais. pour
non, mais par contre, on peut dire quand même que le distributeur est au cœur de tout le système. Ouais. C'est-à-dire que c'est lui, celui qui va amener les films en salle. Ouais. C'est lui ouais. qui va donner confiance à tous les partenaires financiers autour et qui va leur permettre de comprendre comment le film se situe, comment il peut sortir. Ouais. Donc, voilà.
C'est lui qui risque en premier avec nous, hein, le distributeur, en mettant de l'argent sur le film, mais aussi dans tout ce qui va être la distribution et l'exploitation du film. Donc c'est quand même un maillon très très fort et essentiel de la chaîne, Jean Labbadie.
Il dépend mais... quasiment entièrement du succès en salle du film. Ouais. Donc c'est quand même...
Avec le risque de formatage que ça inclut.
Bien sûr.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire que c'est quand même le commercial qui, d'une certaine manière, prime. C'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que c'est les résultats. On attend les résultats.
Ah bah bien sûr.
Mais
il faudrait faire une autre émission sur les distributeurs indépendants ou les groupes, parce que les distributeurs indépendants, il y a quand même une liberté à travailler avec eux quand même. Il y a quand même un esprit. Enfin, je pense que Jean Labbadie. On voit à peu près les films.
Ils sont souvent producteurs, par ailleurs, les distributeurs indépendants. De plus en plus, les distributeurs sont producteurs eux-mêmes. Oui. Donc, en fait, ils ont quand même le même ADN et la même passion. Franchement, on a quand même de la chance en France, il faut le dire.
Vous êtes très chanceux. Beaucoup plus que dans d'autres pays d'Europe ou du monde.
Incomparable.
Mais en quoi vous êtes chanceux?
Pourquoi vous êtes chanceux?
Il y a 200 millions de spectateurs chaque année qui viennent au cinéma. Il y a un parc de salles qui est exceptionnel. Il y a un système de financement qui est très développé, avec une exception culturelle qui est défendue par tous les politiques depuis très longtemps, quelles que soient les tendances politiques. Et je pense que on est des enfants gâtés si on compare au reste du monde, quoi. Et il faut d'ailleurs qu'on reste ces enfants gâtés. Je dis ça parce que il faut le rester.
Dans ces portraits de Nabab, pas mal se sont ruinés. Est-ce qu'on peut encore se ruiner quand on est producteur en France?
Oui, je pense que oui. Enfin bon, moi en tout cas, j'ai travaillé avec un producteur qui s'est ruiné plusieurs fois, par ailleurs, qui a fermé plusieurs boîtes. Ouais. Mais je pense que oui. Enfin, je pense qu'on peut s'effondrer sur un film parce que je pense qu'on prend des risques, quoi qu'on en dise. On se lance dans des projets où il est possible que le film s'arrête, que le film dépasse, qu'on ne tienne plus du tout notre équipe, notre projet, etc. Donc c'est pas impossible. Hein. Enfin, je peut-être plus autant qu'avant, mais...
Non, moi je connais beaucoup de producteurs ruinés, mais j'en connais aucun de pauvre. C'est une phrase qui circule dans le métier. La deuxième étant, pour faire une petite fortune dans le cinéma, il faut partir d'une grande fortune. C'est d'ailleurs, ça correspond très très bien à la série documentaire, parce que quand même, ça raconte ça aussi. C'est des grandes fortunes, pour la plupart, qui vont devenir des petites fortunes.
Ouais.
Ce qui n'est pas du tout, pour le coup, à mon avis, ça c'est aussi une donne qui a changé dans les jeunes générations de producteurs.
On ne peut plus s'enrichir, en fait. Enfin, on ne peut plus devenir riche.
Quoi. On n'est pas riche à la base, donc c'est difficile de se ruiner. C'est-à-dire, ce qui est formidable dans ce système, non, c'est vrai, moi, personnellement, je n'ai pas de fortune personnelle. Donc, être ruiné, je ne peux pas l'être. Mais ce qui est formidable dans ce système qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'on est issus du système. C'est que d'un seul coup, la classe moyenne a pu prétendre à être producteur ou productrice.
Ça, ouais.
C'est que nous, on est totalement issus du système, on est des produits du système, on est arrivé sur un marché professionnel où on a eu des aides qui ont permis de nous laisser la place de producteur.
Et il faut que ça dure, parce qu'en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est la nouvelle génération. C'est de plus en plus compliqué pour les très jeunes, ceux qui montent des boîtes, etc. Parce qu'on a de plus en plus peur, les financiers ont de plus en plus peur d'investir sur des projets quand ils n'ont pas de garantie, que ce soit le casting, etc. Et le fait de ne pas être associé à un groupe ou à une structure plus expérimenté peut être un frein. Et moi, par exemple, j'ai jamais été salariée de ma vie. J'ai produit pour la première fois, quand j'avais 23 ans, un long métrage à New York, sans argent, qui s'est retrouvé à Cannes. J'avais pas un réseau. Donc, ça, faut que ça reste possible.
Ouais. Les femmes productrices, parlons-en avec Albina Dubois-Rouvray.
Moi, quand j'ai commencé, il y avait Christine Gouz-Reynal, qui était la première. Et il y avait Mac Bodard. Et autant que je me souviens, il y avait moi. Je ne sais même pas s'il y avait encore déjà Michel de Broca. C'est possible qu'on soit arrivés plus ou moins en même temps. Parce que moi, je suis arrivée en 69. On était les seuls. Et ce n'était pas facile. C'était pas facile parce que c'était vraiment un milieu de mecs, d'hommes, assez machos, qui voyaient arriver des bonnes femmes et qui se disaient qu'est-ce qu'elles viennent faire dans notre jardin. Et on était parfois traités avec un peu de mépris désinvolte. Ces petites femmes qui s'amusent à faire de la production. Nous, on fait des vraies choses.
Ça fait rire maintenant, mais elles ont dû sacrément se battre, ces femmes. D'ailleurs, Corinne Bonmarchand, est-ce qu'on accorde un gros budget à une femme productrice?
On accorde, c'est plus compliqué. Oui, c'est vrai que c'est plus compliqué d'accorder un budget important à une réalisatrice et à une productrice. On fait moins confiance pour des projets commerciaux à une femme.
Vous avez eu la preuve de ça. Vous avez proposé des films à gros budget qu'on vous a refusé.
Pas totalement, parce que on s'autorise pas, en fait. Enfin, il y a presque une autocensure. Enfin, après,
c'est
moi,
fou,
je fais
ça.
Des films de la diversité, c'est ce qu'on disait, des films indépendants. Donc, j'essaie de trouver un équilibre entre le budget et les financements, mais aussi les objectifs. C'est-à-dire, je sais bien que, voilà, quand je propose un film de Sébastien Marnier, par exemple, même si j'espère un jour faire 1 million d'entrées, je reste raisonnable et j'ai pas envie de planter mes partenaires. Mais c'est vrai.
Tu viens de les perdre.
Mais c'est vrai que on a plus de mal, et nous on s'en est rendu compte, et notamment Marie-Ange et moi qui avons fait partie faisons partie du collectif 50-50, où on a enfin eu des données chiffrées. On s'est aperçu que voilà, les femmes réalisatrices, on ne leur confiait pas de gros projets. Mais je pense que tu as une expérience aussi
avec
Attel, Justin.
Attel
qui les verrait.
C'était plutôt joyeux.
Oui, j'ai pas un exemple. Enfin,
oui, c'était un peu un contre-exemple, justement. Enfin,
oui, ça se passe plutôt bien, et on lui a fait confiance pour aller dans des niveaux de budget assez hauts. Maintenant, je pense que statistiquement, je suis sûr que c'est déséquilibré et que encore aujourd'hui, de façon très très nette, les réalisateurs ont des budgets plus importants, mais j'en sais rien, peut-être parce qu'on considère qu'un gros budget c'est des muscles, j'en sais rien.
Ouais, c'est aussi beaucoup lié aux thématiques, t'as raison.
Ouais. Marie-Ange Luciani, c'est compliqué de demander de l'argent quand on est une femme, ou Sophika, ou c'est maintenant c'est acquis.
C'est toujours compliqué de demander de l'argent. Je pense comment, que soit un homme ou une femme.
Comment on fait pour demander de l'argent pour un film?
On dit s'il vous plaît.
Mais comment on fait croire à un projet? Comment ça se passe?
Moi, je suis très 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 têtue. Alors donc j'ai une tendance, je peux appeler. Et convaincre, même si on me dit non, mais ça c'est le métier de producteur. Moi, j'ai l'impression qu'il faut être extrêmement entêté et de mauvaise foi un peu parfois. Oui, j'ai croisé un agent hier qui me disait, et c'est vrai, je négociais un acteur avec elle et puis ça allait pas, j'arrivais pas à aller au bout de la négo, et puis je me suis mis un stylo dans l'œil et j'ai dit excuse-moi. On raccroche, je viens de mettre un stylo dans l'œil, histoire de faire redescendre le truc, et en disant que j'avais très très mal, en fait, qu'on pouvait plus avancer dans cette négo. Enfin bon, ça c'est rigolo, mais c'est des petits trucs comme ça, mais en fait, il faut être
on
hyper...
On vous croira plus, hein, sur ce coup-là.
Ah non, mais on en parlait hier, parce que c'est vrai que je l'ai eu à la fin. Du coup, cette négo, quand j'ai rappelé. Mais il faut être convaincant, surtout, et têtu. Enfin, moi, je sais que il y a même des distributeurs, hein, Alexandre Malégui, qui distribue souvent mes films, qui peut parfois me dire non. Et en fait, c'est difficile. Hein. Parfois, c'est un peu humiliant même, hein, de demander, de demander. On est tout le temps dans la demande, en fait. Hein. C'est un métier où on demande beaucoup.
C'est humiliant, Marc Bordier.
Parfois, ça peut l'être, mais c'est tellement une affaire de croyance, ce métier. C'est-à-dire qu'il faut avoir une croyance, mais complètement irrationnelle. Mmh. C'est d'ailleurs la difficulté pour un producteur, il me semble, c'est qu'il y a toujours un moment, un phénomène d'aveuglement quand on porte un film. C'est-à-dire qu'on y croit tellement, on est tellement dans le film... Mmh. Que ce phénomène d'aveuglement, et d'ailleurs le collectif dans lequel je suis nous aide tous à éviter ça, mais fait que on peut prendre des risques ou prendre des décisions, mais dire des choses qui sont disproportionnées. Marie-Ange, elle m'a silencieux l'œil. Bon, là, j'ai jamais fait, mais donc on peut s'emporter parce qu'on c'est comme disait Justin, c'est une affaire de vie ou de mort pour nous. Quoi, ça paraît ridicule de le dire, mais je veux dire, c'est quand même ça. C'est une grosse intensité. Un film, c'est une start-up. Quoi. À chaque fois, on lance des start-up. Donc voilà. Et souvent, ça foire. Quand même. C'est-à-dire que souvent, ça marche pas, les films. Il faut le dire aussi.
En fait, on passe quand même notre temps à recevoir des réponses négatives. Hein. Voilà, c'est d'ailleurs, enfin, quand je sais pas, quand on cherche un distributeur, il en suffit d'un, et souvent, il n'y en a qu'un. qui veut le film. Et à côté de ça, on a 10 personnes qui nous disent c'est vraiment pas bien.
Je pense qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'ego à cet endroit-là, en fait, hein, à l'endroit du non. D'habitude, quand on nous dit non, c'est compliqué pour l'ego. Mais là, je pense que ça, il faut le mettre de côté. C'est presque un jeu maintenant, un jeu rhétorique.
Et en même temps, on préfère notre place, c'est-à-dire on n'aimerait pas être à la place de celui qui dit non. C'est tellement plus excitant en même temps d'être celui qui demande et celui qui porte le projet et qui va aller chercher ailleurs. Enfin, moi, je trouve que cette phase justement de financement, avec la phase de développement, c'est quand même des périodes très excitantes et aussi très hystériques. Enfin, on est quand même des gens très passionnés, mais un peu hystériques. Je sais pas.
Il y a un obstacle que les nababs n'ont pas connu et que vous seuls connaissez et c'est unique au monde. C'est le phénomène du Covid et ce que ça a entraîné. Ça a été un tsunami, non, dans votre métier, Justin Torrent?
Moi, personnellement, ça a pas été dramatique. J'avais pas de tournage en cours. Ça a été très dur pour les personnes qui avaient un tournage en cours. Mmh. Et je crois que Marc l'a vécu absolument, donc il pourra nous raconter. Moi, j'avais deux films en post-production. Donc on a tout décalé, c'est juste très déstabilisant d'arrêter quelque chose, de se demander quand on va recommencer et surtout comment on va pouvoir le sortir. Enfin moi personnellement c'est surtout ça que je trouve très dur, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment comment ça va sortir. On attendait Ténet à un moment et puis après on se dit ok on attend la rentrée des classes et puis après on se dit bon bah peut-être qu'on attend la pluie donc on verra comment ça va repartir. On ne sait pas quoi.
Vous avez reçu un fonds d'indemnisation de la part du CNC qui a pris un peu la place des assurances, Caroline Bonmarchand.
Alors moi je m'en suis pas encore servi, mais là il se trouve que je suis en tournage, ouais, et que donc oui le CNC nous a aidé en ça puisqu'il a remplacé les assureurs qui eux n'ont pas complètement fait leur métier. Voilà.
Comme
après.
C'est étrange.
Ouais. Comment ça se passe un tournage sous Covid alors? Si vous en connaissez,
Marc Bourgeat, peut-être.
Marc, je pense que t'entends.
Bah en fait ça dépend des tournages, mais.
C'est toujours le même liquide,
il y a des règles de zonage. Alors ça dépend aussi avec qui. Moi par exemple là j'ai une assurance qui va m'obliger parce que c'est le film de Robert Guédiguian qu'on tourne au Sénégal. C'est une assurance en l'occurrence américaine puisqu'il y a une coproduction avec le Canada. Enfin bon c'est tout un. Et donc je vois le côté américain. Donc ça c'est intéressant. Eux ils ont un système de zonage complètement dingue. Où il y a la zone A, B, C. La zone C peut pas aller dans la zone B si elle a pas été testée. La zone B ne peut pas aller sur la zone A. C'est le plateau, en fait.
Ouais.
Et la zone C, si la zone C touche la zone A, là, il y a un gros pépin, quoi. Donc, on est tous dans des zones. Mais vraiment, quoi. C'est très spectaculaire. Alors, en France, je crois que c'est pas exactement ça, mais il y a quand même des règles de sécurité.
Après, elles sont un peu différentes.
Elles sont chères, du coup, qui coûtent très cher.
Ouais, c'est ça. Et puis, elles sont un peu différentes en fonction des budgets, j'allais dire ça. Moi, je tourne un unitaire pour Arte qui s'appelle Clève, de Rodolphe Tissot, et on s'est posé plein de questions parce qu'il se trouve que c'est quand même un film où il y a énormément de scènes d'intimité.
Ah oui,
et donc, voilà, après, c'est les jeunes comédiens, mais donc, il y a quand même ce risque-là. Et puis, on s'est retrouvé avec une actrice qui, tout d'un coup, était cas contact, qui devait venir tourner 4 jours plus tard, faire un test aujourd'hui. À Paris, ça met une semaine pour avoir les résultats, donc on était là en train de compter les jours. Donc à un moment, on s'est dit, on va l'envoyer à Nantes, faire un aller-retour, parce que là, on peut avoir les résultats en 24 heures. Enfin, bon, tout est comme ça, un peu hystérique, quoi. Enfin, je veux dire, on est dans l'angoisse un peu perpétuelle qu'il se passe quelque chose et qu'on soit obligé d'arrêter, quoi.
Et ceux qui en ont pris plein la figure, plutôt qui ont ramassé tout le gâteau, c'est les plateformes. Est-ce que vous êtes d'accord tous pour les faire payer?
Oui, bien sûr.
Ouais, oui, c'est bien.
Bah, en tout cas, ce serait. Enfin voilà, ça me semble évident pour nous, hein, ici autour de la table, qui participent au système du financement du cinéma aujourd'hui. Ça semble plus qu'évident. Maintenant, est-ce que c'est leur volonté? Et d'ailleurs, comme nous sommes très très affaiblis aujourd'hui, quand même, avec des chiffres en salle qui sont pas terribles depuis quelques semaines. Je me dis le moment de la négo, quand on est moins fort pour négocier, évidemment, je sais pas ce qu'on va pouvoir obtenir, mais il faut absolument, bien sûr. Enfin,
ça a lieu en ce moment, sur la directive SMA qui se discute en ce moment. Enfin, elles vont payer. Après, en ce moment, ils se discutent de la façon dont elles vont s'inscrire dans un paysage français auquel elles sont pas habituées, qui est un paysage régulé parce qu'ils considèrent que les médias ont un rôle d'éducation et de culture, ce qui n'est pas du tout le cas dans le monde américain, et elles viennent essentiellement Amazon, Netflix de cette culture-là. Donc là, ils se discutent la façon dont elles vont pouvoir s'insérer dans ce paysage en respectant des règles, règles qui sont des règles de niveau d'investissement dans les films français, de diversité, de premier film, de type de budget. Donc en ce moment, les choses se discutent, mais c'est capital hein, ce qui se passe en ce moment et qui devrait être réglé d'ici la fin de l'année est vraiment capital. Ouais.
Vous restez avec nous tous les quatre. On rappelle le temps des nababs, ah, Laurent. Oui. Comment produisait-on avant la télévision une série documentaire magnifique de Florence Strauss avec beaucoup d'autodidactes, de passionnés, de joueurs à l'inventivité hors pair, Bromberger, Doman, Dorfman, les frères Hakim, McGoddard, Silberman, Rassam. Bref, une bible en images précieuses par le pacte. On se retrouve après Phoenix.
Rassam, qu'est-ce qui fait qu'il va vers le cinéma?
Quand on lui pose la question, il répond avec ce trait d'humour. Pour réussir le plus vite, j'ai cherché le métier où il y avait le plus de cons. Et c'est dans le cinéma, donc c'est là où j'ai senti que j'allais pouvoir réussir le plus vite.
Les sorties, on va commencer par Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal. Il y a des films comme ça qui vous donnent l'impression d'être encore en vacances, tellement l'histoire qu'on vous raconte vous semble proche de vous, de vos désirs d'évasion. Faire un bout de chemin pour se retrouver, a priori un rêve qui démarre comme une épreuve pour Antoinette, dont les vacances avec son amant marié ont été annulées. Il part avec femme et enfant, elle va aller sur ses traces dans les Cévennes, accompagnée pour cette randonnée solitaire d'un âne, Patrick, à qui elle va confier secrets et blessures. Un thème ultra rebâché au cinéma, la maîtresse délaissée par l'homme marié, mais prétexte ici un road movie bucolique fait d'épreuves et d'endurance et mené par une actrice qui a enfin le premier rôle, c'est Laure Calamy.
Oui, je ne savais pas, Christine, que vous rêviez de vous promener avec un âne, mais si. Je découvre, non, mais c'est bien. Donc c'est des retrouvailles, effectivement, avec une cinéaste qu'on n'avait pas vue au cinéma depuis 20 ans. C'est étonnant, son premier film s'appelait Les Autres Filles, il était très très beau, je trouvais, et bon, elle a fait de la télé entre-temps, ça arrive, mais on la retrouve avec grand plaisir pour ce portrait au féminin. porté, il faut bien le dire, hein, du début jusqu'à la fin par une Laure Calamy en très 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 grande forme. Elle crève absolument l'écran, notamment dans une première scène qui est absolument d'anthologie où elle essaye de piéger son amant avec du Véronique Sanson chanté par une chorale de petits qui ne comprennent rien à ce qu'il chante. Donc c'est très très beau. Alors il y a cette espèce de programme de le mari, la femme et l'amant jusqu'au moment où la femme qui jouait pas Olivia Cotte et qui est excellente, ouais, se révolte. Et alors là, ça donne une merveilleuse scène de vraiment tout à fait intéressante et qui fait basculer le film vers un ailleurs, qui fait que le film est surprenant. À partir de ce moment-là, eh bien, Antoinette, elle découvre tout simplement la liberté. Et c'est cette ode de la liberté qui rend ce film aussi très très beau et très intéressant à suivre avec ou sans Anne.
C'est ça qui me faisait envie, hein, c'est la liberté.
Mais bien entendu, Christine,
les choses qu'on
compris.
Dit, les choses qu'on fait, Emmanuel Mouret, tout est dans le titre. Puisque dans ce film, Emmanuel Mouret va sans cesse confronter les paroles aux actes de ses personnages pour faire naître cette intrigue. Alors, François est amoureux de Louise, mais de Daphné, elle-même déçue par son réalisateur. Elle est monteuse et il en aime une autre, tandis que Maxime devra partager Sandra avec Gaspard, après que Julia l'ait larguée pour partir au Japon. Une circulation du désir racontée en flashback et dont les narrateurs, à force de confidences, se retrouveront piégés, Laurent.
Oui, alors évidemment, j'ai lu par-ci par-là qu'il y a trop de dialogues, trop de rebondissements, trop de quiproquos. Moi, je sais pas ce que c'est que cette histoire où il y aura un trop plein de choses de qualité, surtout si elles sont effectivement aussi bien écrites, aussi bien travaillées, aussi bien jouées par un très beau casting, là où on retrouve Vincent Macaigne, Émilie Duquesne et Camélia Jordana. Il faut peut-être insister encore plus sur elle, qui est un peu encore
confirmation d'actrice.
Ouais. Aussi, absolument, tout à fait. Et je trouve qu'il y a vraiment là une très très grande qualité de préparation d'un film, de scénario, une grande attention au résultat final, avec une fluidité de la mise en scène et un soin, notamment, je trouve, apporté au décor, au lieu, au paysage, où tout ça évolue, qui est vraiment de bon aloi et qu'on a plaisir à trouver dans le cinéma français en ce moment, puisqu'il faut le rappeler, il faut aller au cinéma en ce moment, beaucoup, 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 il faut aller dans les salles.
Et les quatre producteurs autour de la table opinent du chef. Honeyland, c'est un doc de Tamara Kotevska et Lyubomir Stefanov. C'est une femme qui s'occupe d'abeilles pour sa production personnelle jusqu'à ce qu'une famille débarque et crée le désordre, Laurent.
Oui, alors c'est un
document. Ça se passe en Macédoine.
C'est un documentaire. C'est une fable écolo, on va dire, assez bien pensante, comme il se doit en ce moment, évidemment. Et il y a une gêne progressive, en tout cas que moi j'ai ressentie. Je ne dis pas qu'elle est consubstantielle au film, mais en me demandant si j'étais justement devant un documentaire ou devant une fiction, à force effectivement de procéder. Et ces procédés m'ont gêné, y compris, alors peut-être encore plus d'ailleurs, une sorte d'esthétique parfois de pub qui ne sied guère ni au sujet, ni à mon sens au documentaire.
D'accord. Et enfin, une reprise en version restaurée, Ne vous retournez pas, de Nicolas Roeg, sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu tous, en 73. Quelle chance vous aurez de découvrir ce film dans une salle obscure, le lieu idéal. Cette scène d'ouverture, c'est un modèle du genre, c'est un objet d'étude. Le rouge au centre du vitrail, le petit ciré rouge près d'un étang, du sang sous une plaque de verre, une prémonition, celle de la mort d'un enfant. C'est absolument remarquable. C'est avec Julie Christie et Donald Sutherland. Maintenant, on passe au cadeau, Laurent, pour nos invités.
Ben oui, on a essayé de faire les malins, comme d'habitude, et de trouver des cadeaux adaptés. Ben, les cadeaux adaptés, c'était de vous offrir à chacun un film produit par un nabab en son temps, bien évidemment. Et il y a un nouveau éditeur qui s'appelle Coin de Mire Cinéma, qui s'est spécialisé dans l'édition vidéo patrimoniale française, en général. Alors, c'est des petit coffret vintage avec un DVD et un Blu-ray, des photos, vous savez, ces photos que Truffaut pique dans les cinémas dans les 400 coups, la reproduction de l'affiche du film, des publicités de l'époque, des infos de l'époque, des bandes annonces, des bandes d'actualité de l'époque. Alors il y a tout, il y a des nanars comme Rapt à la RATP, ce titre m'a toujours plu, et puis il y a Porte des Lilas évidemment de René Clair. Vous trouverez toutes les infos sur notre site pour aller plus loin dans cette belle collection. Alors, donc, un chacun, Caroline Bonmarchand, eh bien, on avait envie de vous offrir Des gens sans importance d'Henri Verneuil, produit en 1955 par Ignace Morgenstern.
Ouais.
Ignace, il faut le rappeler, c'est le futur, à l'époque, beau-père de François Truffaut. Et le film est coproduit aussi par Marcel Berber, qui est lui-même le futur producteur de François Truffaut avec les films du Carrosse. C'est un très très joli film avec Gabin en routier, amoureux s'il vous plaît, de François Arnoul, le tout sous une musique de Joseph Cosma.
Henri Merleuil, c'est pas forcément une tasse de thé cinématographique, ben là, c'est un très joli film à redécouvrir, des gens sans importance. Justin Torrent, vous me servirez de valet pour passer à chacun d'entre vous les films. Merci beaucoup. Marc Bordure, pour vous, on continue avec Gabin, Rue des Prairies, réalisé en 1959 par Denis de la Patellière, produit par Georges Danzinger pour Cinédis. Toujours Gabin, donc en ouvrier modèle, qui revient d'un camp de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale et qui découvre qu'entre-temps, sa femme a fait un troisième enfant, mais comme il n'était pas là, on se doute bien que c'est pas de lui. Les dialogues sont de Michel Audiard, c'est une sorte de drame social, mais il y a aussi Claude Brasseur, Roger Dumas et Marie-José Nat, et une musique de Georges Vamparis, pardonnez-moi, c'est pour ça que ça marche aussi bien. Marie-Ange Luciani, pour vous, on quitte Gabin, on arrive à Bardot, La Vérité, Henri-Georges Clouzot, produit en 1960 par Raoul Lévy. Alors là, c'est un film très connu et reconnu, hein. Le grand rôle, premier grand rôle dramatique de Bardot, d'après un fait divers retentissant qui est l'affaire Pauline Dubuisson, avec la misogynie habituelle et portée en baudrillère d'Henri-Georges Clouzot, plus Charles Vanel, plus Samy Frey, plus Paul Meurice. Franchement, c'est un film qu'on aime à voir et à revoir, quel que soit son discours.
Et enfin pour Justin Torrent.
Et pour Justin Torrent, à qui je tends aussi la vérité. Alors là, une vraie rareté, non coupable, de Henri de Coin, avec Michel Simon. Ça, a été vraiment, c'est un très très beau, c'est un très beau film de 1947. Dialogue de Marc Gilbert Sauvageon. Il joue un médecin alcoolique et raté. Et croyez-moi, c'est un film noir de chez noir que je vous recommande chaudement.
On est super en retard. Merci beaucoup Marie-Ange Luciani, Caroline Bonmarchand, Justin Torrent et Marc Bordure.
Merci à tous les quatre.
Quatre producteurs aventureux. Un grand merci pour finir à Franck Saloun. Et maintenant, générique avec vous quatre. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes, des chefs opérateurs et des producteurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Georges Delerue a écrit les musiques du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Christophe Majer s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Marc Bordure, j'y étais.
Et moi, Marie-Ange Luciani, j'y étais.
Et moi, Justin Torrent, j'y étais.
Et moi, Caroline Bonmarchand, j'y étais.